Bon dimanche, Ray. Comment vas-tu?
Salut, Patrick. Ça va bien?
Oui. As-tu regardé la course de 100 mètres comme nous tous?
Oui, absolument.
Yes! C'est quand même une prognie. Puis je sais que c'est pas dans notre programme, là, mais c'est gros pour l'Italie.
Oui, ça, c'est un événement. Ils ont eu une grosse année quand tu penses à la victoire dans l'Euro, puis Berrettini en finale à Wimbledon. Récemment, ça a été beaucoup de succès.
C'est vrai, t'as raison. On va lâcher les Jeux olympiques un peu, on va se parler de basketball un peu, parce que, et je sais que ça t'intéresse beaucoup, là, la NBA qui poursuit sa conquête du monde avec un investissement important en Afrique. Et cette semaine, il y a le président Obama là, qui est devenu un investisseur personnel et stratégique avec NBA Africa. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ben, c'est important de parler d'événements, puis d'organisations, puis de connexion mondiale dans le sport. Puis la NBA, c'est le leader incontesté des ligues de sport mondiales, Patrick, pour toutes sortes de raisons. D'abord, il y a 55 joueurs africains qui évoluent dans la NBA en date d'aujourd'hui, ce qui n'est pas un petit chiffre quand tu considères que l'Afrique, le continent, a souvent été négligé, oublié même lorsqu'on pense à des grands athlètes élites. C'est pas l'Afrique qui nous vient en tête. Alors, moi, mon histoire avec la NBA, pour avoir travaillé longtemps avec la Ligue, dans les années 90, j'avais eu l'occasion d'organiser des matchs de la NBA en Europe. Puis évidemment, lorsque tu organises un match, ben, tu hérites d'une équipe ou deux équipes. Puis là-dedans, il y a souvent plusieurs joueurs qui viennent de partout dans le monde. Ben, à l'époque, dans les années 90, entre les deux séries de conquête des Bulls de Chicago, il y avait eu 2 ans où les Rockets de Houston avaient gagné. Mmh. Et leur meilleur joueur était Hakeem Olajuwon. Ouais. Puis Hakeem Olajuwon, c'est une des légendes de la NBA, originaire d'Afrique lui aussi, qui est devenu un joueur connu mondialement, qui habite à Houston encore aujourd'hui, puis j'ai eu l'occasion de le connaître, puis de voyager beaucoup avec lui, personnellement, pour l'emmener à être un ambassadeur pour la NBA. Puis ça a été suivi par quelques voyages et rencontres professionnelles, là, avec Dikembe Mutombo, ben, qui est un autre joueur africain, originaire du Congo à l'époque, qui est francophone en plus.
Ouais.
Alors, Mutombo, un grand ambassadeur de la NBA, ces gars-là étaient les premiers précurseurs à développer la possibilité du rêve, Patrick, pour un Africain d'atteindre la NBA. Mm-hmm, mm-hmm. Et ça, c'est vraiment important quand on regarde comment le monde est plus petit aujourd'hui, parce que tout se fait plus facilement et rapidement, toutes les connexions à cause de la technologie et ainsi de suite. Mais depuis des années, la NBA organise des visites en Afrique, des visites en Afrique du Sud particulièrement. Puis les joueurs de la NBA, dont plusieurs Africains, retournent, jouent des matchs d'exhibition, si on veut. Et puis, ça continue à populariser ce sport-là. Puis, la NBA a toujours cru qu'elle avait un rôle, grâce à David Stern comme patron, de devenir ambassadeur pour l'Amérique, mais aussi pour le sport mondial et le rassemblement et les opportunités que ça peut occasionner.
Mais Rick, qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là à développer? Est-ce que on cherche à développer d'abord et avant tout des athlètes? On cherche aussi une possibilité marketing? Parce que quand on va vers l'Asie, forcément, c'est plus marketing que des athlètes.
Mais tu as raison, Patrick. Ce sont les deux. Tu l'as bien dit. Là. On cherche de la business, bien sûr. Puis on cherche aussi de développer des opportunités pour des jeunes, avec de l'espoir qu'ils peuvent peut-être atteindre eux aussi le rêve de l'Amérique et la NBA. Fait qu'il y a 3 grandes initiatives qui ont été faites depuis à peu près 4-5 ans. D'abord, il y a eu des académies de la NBA qui ont été mises et construites et placées en Afrique. Puis quand on parle d'académie, il y a vraiment un côté académique, scolaire, mm-hmm. mais aussi préparation à des occasions. Puis il y en a aux Philippines, il y en a au Mexique, il y en a en Inde, il y en a en Chine. La NBA s'en est placée partout, des académies de ce genre-là. Mais il y a aussi le lancement de ce qu'on appelle la Basketball Africa League. Donc, ils ont mis en place avec la FIBA, FIBA étant la Fédération internationale de basketball, ils ont mis en place une ligue avec 12 équipes participantes. Puis ça a été la conclusion, il y a quelques mois seulement, de la première saison. Tu parles de l'Algérie jusqu'au Sénégal, jusqu'à Madagascar, littéralement partout en Afrique. Et c'est une façon de mettre un parapluie NBA dans l'organisation avec des infrastructures modernes en Afrique. Donc, on essaie de créer un peu l'aspect professionnel là-bas. Ouais. Et la dernière initiative, ça a été la fondation, il y a quelques mois, en mai dernier, de ce qu'on appelle NBA Africa, comme entreprise distincte. Puis c'est là que Barack Obama, qui adore le basketball, qui est originaire de Chicago, qui a toujours parlé de son amour pour les Bulls puis de Michael Jordan à l'époque, et quand il était président, bien, on le voyait souvent pratiquer le basketball dans son temps libre. Contrairement à Donald Trump qui faisait du golf, Obama faisait du basketball.
C'est très vrai. Ouais.
Alors, Obama, lui, a décidé de s'investir maintenant qu'il est entrepreneur indépendant, qu'il n'a plus cette responsabilité-là du pays, ben, il aime ce qui se passe avec la NBA dans le monde entier et en Afrique. Alors, il est devenu actionnaire de cette entreprise distincte-là qui cherche à développer de la business en Afrique pour la NBA, mais aussi à créer des opportunités sociales et communautaires pour l'avenir puis la prochaine génération de jeunes Africains.
Ouais.
Alors, c'est vraiment important de souligner quand un politicien comme ça de carrière se lance du côté privé et le fait pour des raisons, évidemment, qui sont très généreuses et ouais. très communautaires.
Et la bonne nouvelle là-dedans, puis on va passer au hockey tout de suite après, là, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une relation one-way en bon français, là, à sens unique. C'est-à-dire que je pense que l'Afrique va y trouver son compte également dans cette relation-là. Puis la même chose pour la NBA, c'est tant mieux comme ça. Je veux qu'on se parle rapidement de la fin de la relation entre NBC et la Ligue nationale de hockey. Moi, j'avais entendu dire que les codes d'écoute des dernières séries étaient ordinaires, mais il semble qu'en général, ça a été un succès, cette association-là.
Ça a été une relation de 16 ans, Patrick. Puis la raison pourquoi je veux en parler, c'est parce que je regarde les Olympiques puis je vois NBC qui diffuse ça. Puis ils ont les droits exclusifs dans le monde entier pour être le diffuseur numéro un,
ouais.
d'abord. C'est eux qui produisent le spectacle. Et puis ça leur coûte une fortune. Puis ils ont ces droits-là jusqu'en 2032. C'est une longue, longue relation. C'est ça qui défraie littéralement, là, je te dirais, une grosse partie de la facture olympique à chaque année. Si le CEO ne serait jamais ce que c'est aujourd'hui sans NBC.
Ah ouais.
Alors, 16 ans avec la Ligue nationale, depuis la fin du lockout en 2005-2006, début de la saison 2005 à l'automne, et puis 16 ans de succès, 16 ans d'innovation. Les matchs de la classique hivernale, le Winter Classic, les matchs qu'on a vus au Lake Tahoe au printemps dernier. Uh-huh. Alors, les caméras avec des drones pour capter les matchs. Toutes ces choses-là, toute l'innovation, c'est ça qui, à mon avis, a été le catalyseur pour la croissance très rapide en 15 ans de la Ligue nationale de hockey aux États-Unis. Puis là, ironiquement, au moment où ça atteint son sommet, bien là, les deux autres reviennent dans le portrait, c'est-à-dire Turner Sports puis ESPN. À cause du succès d'NBC, qui a emmené ça à un niveau jamais atteint en termes d'audience télé, en termes de popularité, en termes d'économie du hockey, bien là, ESPN et Turner se joignent et dépensent 625 millions par année, contrairement aux 200 millions qu'NBC payait.
Ouais.
Ben donc, quand on parle du succès de la Ligue nationale aux États-Unis, puis l'importance que ça connaisse du succès pour que le hockey soit en meilleure santé partout dans la Ligue et partout dans le monde, ben il faut donner du crédit à NBC, qui termine sa relation, c'est officiellement fini, conclu, mais qui aura été vraiment pionnier dans la diffusion du hockey aux États-Unis, qui a fait en sorte que le hockey s'est popularisé avec les Américains comme audience, il est devenu un sport majeur, et ça a été propulsé par un gros succès économique mené par Gary Bettman.
Et est-ce que ESPN, en terminant, Reed, est-ce que ESPN a le même taux de pénétration que NBC ou un peu moins ou quoi?
C'est sûr que c'est moins parce que ouais. c'est du câble versus ouais. la télé traditionnelle. Mais ce que ESPN a, par exemple, c'est ESPN+.
Okay.
ESPN+, c'est l'appareil sur ton application qui fait en sorte que des centaines de matchs de la Ligue nationale de hockey seront diffusés sur le app directement. C'est un peu comme Disney+, c'est un peu comme Prime Video, puis Apple Plus, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est un avantage que ESPN va avoir sur NBC. Puis en plus, ESPN, c'est d'abord et avant tout un diffuseur de sport 100%, le leader incontesté du sport mondial. Donc, moi, je pense que ça va se poursuivre, le succès du hockey de la Ligue nationale aux États-Unis. Puis ils sont certainement mieux placés aujourd'hui pour être à ESPN qu'il l'était auparavant, grâce à NBC.
Ouais, et on aura beau sacrer contre Gary Bettman, il reste qu'au bout du compte, hein, les équipes se seront enrichies pas pire sous sa gouverne. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Ray. On se reparle, on se retrouve la semaine prochaine.
Salut Patrick, bon
dimanche. Merci, bye bye, merci à toi aussi.